Je vais commencer avec quelques questions ce matin. Quelle est votre posture générale dans la vie? Si vous devriez définir votre posture dans la vie, quelle serait-elle votre posture? Êtes-vous méfiant quant aux véritables intentions des gens, votre famille, vos voisins, les dirigeants politiques ou les responsables d'église? Êtes-vous suspicieux ou bien dominé par la peur de ceux qui s'opposent à vous? Votre vie est-elle marquée par l'anxiété face à ce qui pourrait arriver, catastrophe climatique, ruine financière, maladie? Existe-t-il une autre manière de se positionner dans la vie? Quel but suprême guide votre vie, votre prise de décision quotidienne? Passez-vous votre temps, votre but suprême est-il jugé par les désirs personnels? Je veux être le meilleur étudiant, le meilleur athlète, être aussi influent que possible, gagner autant que possible d'argent, ou priorisez-vous le bien des autres, l'intérêt des autres? Et encore une fois, y a-t-il encore quelque chose de plus? Tout le monde est à la recherche de sens. Le sens contemple le but. On se pose la question, que sommes-nous ici? Quoi faire? Le sens suggère la cohérence, comment les événements de nos vies s'assemblent-ils? Qu'est-ce qui donne la valeur à nos vies? Notre passage biblique aujourd'hui répond à ces questions. Je dirais qu'elle répond à ces questions. Il conclut à la conversation concernant les viandes offertes aux idoles, cette section qui a commencé au chapitre 8, au ch verset 1. Et ce qu'il dit s'applique dans la vie en général. Jusqu'à présent, Paul parle de manger de la viande offerte aux idoles dans les salles de banquet des temples. La directive est claire comme de l'eau roche. Fouillez l'idolâtrie. Ceux qui mangent la nourriture idolâtre se lient aux dieux païens et s'ouvrent aux démoniaques. Mais toute la vie ne se passe pas dans la salle de banquet, dans un temple païen où les idoles sont ouvertement vénérées. Qu'en est-il de la famille et des finances? Qu'en est-il de la famille, des finances, dans l'athlétisme, dans l'éducation, pour n'en citer que quelques-uns? Notre passage est centré sur la nourriture, oui, mais les conseils fournis offrent une posture de vie générale, abordent un problème spécifique ou nous offrent un meilleur, merveilleux résumé de notre but dans la vie. Je pense que la structure de notre passage nous aide à comprendre comment nous devons aborder le texte. Il commence avec le but de la vie, versets 23 à 24, la posture de la vie, 25, 27, et puis il passe au problème de la vie, 28, 29a, il retourne à la posture de la vie, 29b, 30. Et puis le but de la vie améliorée, verset 31, et puis chapitre 11 à 1. OK, revenons au 25. Manger de tout ce qui se vend au marché de la viande sans soulever des questions par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Alors, le marché de viande était un mot utilisé pour une boutique sur le marché vendant la viande et du poisson. En raison de la proximité du marché de viande avec les temples païens, il était concevable qu'une partie de la viande ait été utilisée par une offrande était utilisée dans une offrande sacrificielle. Mais vous n'étiez jamais sûr de l'origine de la viande. Le commentateur biblique Andrew Wilson écrit: la viande dans la Corinthe romaine ne venait pas sous vide dans du plastique et de l'emballage n'est stipulé pas si les animaux en question avaient été élevés en plein air, nourris au maïs, ou heureux au moment de leur mort. Dans ce contexte corinthien, où éviter toute nourriture ayant une association avec l'idolâtrie était presque impossible. Alors Paul dit que, à notre surprise, que les Corinthiens, que les chrétiens de Corinthe peuvent manger tout ce qui est vendu au marché, sans soulever les questions. En d'autres termes, sans enquête judiciaire pour déterminer son origine. Les Juifs, l'inspection de la viande était cependant la pratique juive. Les Juifs n'étaient autorisés à acheter de la viande que s'il pouvait être établi sans aucun doute qu'il s'agissait de la viande offerte aux idoles. Il ne s'agissait pas de la viande. Imaginez à quel point ces conversations auraient été ennuyeuses. Comment cette viande a été préparée? A-t-elle été offerte en sacrifice? Est-elle entrée en contact avec les viandes offertes en sacrifice? Quand quelqu'un a-t-il prié d'une prière de dédicace? À une occasion, alors que notre famille vivait au Brésil, il y avait des soupçons de fièvre aphteuse dans le bétail du sud du Brésil. C'est une maladie très contagieuse qui laisse les animaux affaiblis, parfois boiteux. Et la plupart des animaux adultes survivent, mais les jeunes veaux peuvent mourir. C'est vraiment sérieux. Alors, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a envoyé mon cousin pour enquêter. Inutile de dire qu'il n'était pas le bienvenu. Pour les Brésiliens, ce n'était rien de plus qu'une manœuvre politique destinée à saper l'industrie brésilienne de la viande. Partout dans les médias, c'est ce qui était. Et du jour au lendemain, les Canadiens étaient bons, mais tout d'un coup, c'est devenu une mauvaise chose. J'étais heureux de conduire mon cousin à l'aéroport. Bon vol. Désolé de vous voir partir. Si vous revenez, revenez pour un autre but. Le message de Paul, chrétien, vous n'êtes pas appelé à être des inspecteurs de la viande. C'est pas ça le but de votre vie. Il donne le feu vert pour tout en dehors du contexte ouvertement idolâtre. Nulle part, on peut se dire, nulle part, Paul n'est aussi peu juif. Quelle est la prémisse guidant son conseil? On commence au verset 26. « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » C'est une citation directe du psaume 24:1. Ce verset a façonné « Dieu est souverain sur toute la vie ». Ce verset a façonné les prières juives avant le repas. Dieu est souverain sur toute sphère de la vie. Il a créé toutes choses. Et non seulement il a créé toutes choses, mais il a créé toutes choses bonnes, car cela inclut la nourriture. Il n'y a pas une sphère qui appartient à Dieu ou une autre sphère qui n'appartient aux idoles. La création tout entière appartient à Dieu. Et c'est quoi la posture de vie? La gratitude en toutes choses. Paul écrit dans 1 Timothée 4:4-5 que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car cela est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Aborder la vie avec un esprit de gratitude en toutes choses. Ce n'est pas simplement ce que tu sais, ce que tu ne sais pas ne te fera pas de mal, mais pourquoi perdre ton temps à tracasser ta conscience avec quelque chose qui n'est clairement pas d'une grande conséquence? Dans la Corinthe romaine, la conscience d'une personne était ancrée dans son identité et son sentiment d'appartenance à la communauté. Alors les personnes ayant une identité fragile, un sentiment d'appartenance insécure, prenaient des décisions basées sur leur peur de l'exclusion de la communauté. Leur suspicion, il y avait leur suspicion pharisaïque envers les autres. Ou leur anxiété par rapport à la faveur de Dieu. Alors, le message de la bonne nouvelle de Jésus, c'est ici là où elle est bonne, et que les personnes qui ont confié leur vie à Jésus ont une relation sécurisée avec lui. Elles appartiennent à Dieu et à son peuple, maintenant et pour toujours. Elles sont éternellement unies à Christ, qui est le créateur de toutes choses. Et toutes choses appartiennent Toutes choses appartiennent à Jésus et ils peuvent jouir de sa bonne création. Ils peuvent marcher avec gratitude en toutes choses, non pas avec peur, anxiété et suspicion. Cette posture de vie est pertinente pour toutes les sphères de la vie. Alors que je marchais dans les rues d'Ottawa plus tôt cette semaine, j'ai contemplé la sphère politique. Nous avons eu un choix à faire. Je me suis posé cette question. Comment je devrais approcher notre gouvernement dans des conversations, des projets C2, C7, C8? Allons-nous aborder chaque... allons-nous être immobilisés par la crainte? Ou bien allons-nous aborder chaque politicien avec une attitude suspicieuse ou méprisante? Une posture de jugement. Allons-nous connaître des niveaux croissants d'anxiété et de stress parce que nous craignons la direction que prend notre pays? C'était ça. Alors, où allons-nous vivre avec gratitude? La gratitude est un sentiment de ceux qui se confient en la souveraineté des dieux. La gratitude envers Dieu nous conduit à la prière. La gratitude nous permet de voir les 12 premiers mots de notre charte canadienne de droits et libertés, entendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie des dieux. C'est comme ça que ça commence. La gratitude nous rappelle le psaume 72:8 sur les armoiries canadiennes. La gratitude nous permet de voir les serviteurs de Dieu qui cherchent à être fidèles à un temps très volatile, incertain, complexe, ambigu. La gratitude nous rappelle que Jésus, le roi des rois, ça nous rappelle aussi qu'il y a 35 personnes, membres du Sénat et du Parlement, qui se réjouissent, qui se mettent ensemble pour prier. On peut se dire que chaque mercredi, on peut se dire que c'est seulement 35, mais ça a augmenté. Il n'y a pas longtemps, c'était 10 personnes. Et quel que soit ce que le gouvernement fait, on peut avoir la gratitude, sachant que Dieu règne de l'Est à l'Ouest, qu'il est souverain sur toutes choses. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à ne pas être guidés par la peur, l'anxiété ou la suspicion. Dans aucune sphère de notre vie, nous sommes appelés à ancrer notre conscience et les décisions que nous prenons dans notre nouvelle identité en Christ et notre appartenance sécurisée à son peuple. Nous sommes appelés à porter une posture de gratitude en toutes choses. Qu'en est-il? Il y a encore des questions. Qu'en est-il de la nourriture offerte chez un membre de la famille ou un voisin non chrétien? Qu'en serait-il de cette situation? Verset 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez tout ce qui vous est présenté sans soulever des questions par motif de conscience. Encore une fois, pas de rôle d'inspecteur de la viande. Paul ne s'attend pas à ce que les disciples de Jésus se retirent complètement de la société corinthienne et n'aient aucun contact avec les non-chrétiens vivant dans une sorte de ghetto protégé. Il n'a pas le désir de couper les chrétiens de leur famille, de leurs voisins, de leurs relations. Le christianisme authentique n'est pas une secte. Ainsi, lorsque vous mangez chez un non-chrétien, ne cuisinez pas votre voisin sur ce qui a été grillé. Si vous posez des questions, si vous ne ferez que parader de votre conscience éclairée et de votre communiquer une supériorité morale, au lieu d'être la robe de Christ à la table du dîner, vous serez aperçu comme un pinailleur religieux, tatillon, préoccupé par des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Vous tomberez dans la catégorie des hypocrites plus vite que vous ne pouvez être idolâtre. Suivez par principe suivez le principe du verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de son prochain. Pensez au bien-être de votre hôte, pas à votre pureté personnelle. Dans le verset 29-30, Paul affirme cette posture par deux questions rhétoriques qui font écho au verset. Il dit, car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Si je mange avec gratitude envers Dieu pour sa bonté et sa provision, pourquoi serais-je calomnié? Andrew Wilson le résume bien, il dit, Dieu l'a créé, je peux le manger, c'est la règle, la question. Alors, pouvons-nous être reconnaissants et manger ce que nous voulons dans n'importe quel contexte? Eh bien, voici, il y a une exception. Voici un problème David guidé par l'amour. Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, alors n'en mangez pas à cause de celui qui a fait la remarque, à cause de la conscience. Je veux dire, c'est la conscience. Je veux dire de sa conscience à lui et non la vôtre. Le langage est spécifique à la nourriture offerte dans les sacrifices païens. La question avec laquelle nous devons lutter est qui est ce quelqu'un? Il y a au moins quatre possibilités. La première, c'est que quelqu'un peut être un autre disciple de Jésus qui croit que le chrétien devrait éviter cette nourriture offerte aux idoles. Mais pourquoi ce chrétien, ayant ces pensées, serait-il même présent au repas? Il éviterait de telles réunions. Deuxièmement, ça serait quelqu'un pour qui, ce quelqu'un pourrait être un non-chrétien qui embarrasse un chrétien pendant le repas, parce qu'il sait que les chrétiens doivent éviter la nourriture idolâtre. En d'autres termes, il essaie de nuire à la réputation sociale du chrétien. Troisième possibilité, ce quelqu'un pourrait être un non-chrétien qui est sensible aux convictions du chrétien concernant la nourriture idolâtre et qui, de bonne foi, veut lui faire savoir d'où cette viande vient, Et la quatrième possibilité, je pense que celle-ci est la plausible, c'est un autre non-chrétien faisant cette déclaration avant le repas comme un acte d'adoration idolâtre, déclarant que la nourriture est sacrée. Dans ce cas, le chrétien doit s'abstenir de manger, non pas à cause de sa propre conscience, mais à cause de la conscience de celui... Parce que le chrétien sait que Dieu est souverain sur toute chose et que toute chose demeure à Dieu. Et que les idoles ne sont pas les vrais dieux. Mais il va s'abstenir, non pas à cause de sa propre conscience, mais à cause de la conscience de celui qui fait la déclaration. L'hôte témoigne de sa dévotion à son Dieu. Ce n'est pas une situation de la viande et de la viande. Asseyez-vous et mangez. Pourquoi pas? Si le chrétien sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toute nourriture appartient à Dieu. Dans cette situation, ce n'est pas ce que le chrétien sait qui compte, mais que les autres croient. Manger de la nourriture idolâtre communiquerait que le chrétien approuve l'idolâtrie et est prêt à adorer les dieux de l'autre. Rentrons au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Toute cette phrase, il y a « tout est permis » et entre guillemets qui était un slogan en vogue parmi les Corinthiens de la pensée libre pour justifier leur comportement. Ils disaient « j'ai le droit de tout faire, j'ai la liberté de tout faire, ce que je veux quand je veux ». Et Paul dit « oui, mais tout n'aide pas les gens à s'épanouir. Par exemple, la promiscuité sexuelle, l'idolâtrie détruiront votre âme. Adorer à la table des démons a des conséquences graves. Ça détruira votre âme. Restez, demeurez sur la table. Ne dites pas seulement que toute chose est bonne et possible. Voici un autre exemple pour nous aujourd'hui. Nous sommes libres de passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Vous êtes libres, mais nous savons qu'un temps illimité sur les réseaux sociaux conduit à des niveaux croissants d'anxiété et rend susceptible à la dépression, surtout parmi les étudiants et les jeunes adultes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout n'est pas édifiant. Tout n'est pas sagesse. Et tout n'édifie pas non plus. Paul écrit dans 1 Corinthiens 8:1, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Alors, nous devons nous demander, les gens autour de nous, nous devons nous poser la question, les gens autour de nous s'épanouissent-ils ou dépérissent-ils? Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de son prochain. Qu'est-ce qui aidera mon prochain à s'épanouir? Qu'est-ce qui l'encouragera? Qu'est-ce qui le stimulera spirituellement? Qu'est-ce qui le conduira à Jésus? L'amour de Jésus nous pousse à penser au bien des autres. Et cette posture de vie est informée et inspirée par notre but dans la vie. Regardons au verset 31, 33 et ensuite 11, chapitre 1, verset 1, qui résume toute la conversation qui a commencé au 8, 1, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que signifie la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est la manifestation extérieure de sa perfection infinie. C'est le poids et la valeur immense de son être. C'est la splendeur rayonnante de sa sainteté. C'est le caractère intrinsèque de Dieu exposé à travers sa création, ses œuvres de rédemption et sa providence. Notre échec à reconnaître la gloire de Dieu conduit à l'idolâtrie. Regardons sur différentes sphères de la vie, encore une fois, que nous avons parlé il y a quelques semaines. Que se passe-t-il quand je suis au centre de tout? Au lieu de glorifier Dieu dans toutes les sphères de la vie, nous idolâtrons soit nous-mêmes ou utilisons le bon don de Dieu pour notre propre gloire. Soit nous idolâtrons d'autres choses, d'autres créatures, d'autres experts, le pouvoir, les systèmes de valeurs, et nous leur donnons la gloire qui appartient seule à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Jésus était la gloire de Dieu incarné. Son caractère, ses œuvres, ses relations, tout en lui reflétait la gloire de Dieu. En tant que disciple de Jésus, notre but ultime est de rendre témoignage et de refléter la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à refléter sa gloire dans toute sphère de la vie. Dans toutes les sphères de la vie, nous devons apporter la gloire à Dieu. Alors, si nous sommes en Jésus, à quoi cela ressemble-t-il? Nous apportons gloire par notre prière d'action de grâce et l'adoration dans toutes les sphères de l'homme. Nous lui apportons la gloire lorsque nous reconnaissons que tous les bons dons dans chaque sphère viennent de lui. Nous lui apportons la gloire lorsque nous manifestons son caractère, son amour, sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa fidélité dans toutes les sphères de la vie. Nous lui apportons gloire lorsque nous obéissons à ses commandements et vivons selon ses valeurs dans chaque sphère de la vie. Nous lui apportons gloire lorsque le Saint-Esprit nous conforme à la ressemblance de Jésus dans toutes les sphères de la vie. Nous apportons gloire à Dieu lorsqu'au lieu de nous rendre plus riches, plus puissants et plus célèbres, nous aidons les autres à s'épanouir selon le dessein de Dieu pour la vie, dans toutes les sphères de la vie. Nous lui apportons gloire lorsque nous recherchons le bien des autres, pas seulement notre propre intérêt, et vivons avec générosité dans toutes les sphères de la vie. C'est ça le but de notre vie, pour vivre pour la gloire de Dieu dans toutes choses. Retournons sur l'histoire d'Ottawa pour quelques minutes. Notre petit groupe de pasteurs a parlé avec des politiciens cherchant à apporter gloire à Dieu alors qu'ils ont des conversations personnelles avec d'autres politiciens et qu'ils travaillent leurs différents dossiers. Cherchant à apporter la gloire de Dieu. Et il y a eu discussion sur différents dossiers, les relations États-Unis-Canada, l'aide médicale à mourir, la traite des êtres humains, la législation sur les discours haineux, les statuts d'organismes de bienfaisance des organismes à but non lucratif, ainsi que de suite. Pensez à votre propre vie. Comment, à quoi ressemble-t-il d'apporter la gloire de Dieu dans votre famille? À quoi cela ressemble-t-il de glorifier Dieu à l'école, au travail? À quoi ressemblerait-il de glorifier Dieu dans toutes les sphères de la vie, comme le dit le célèbre premier ministre, journaliste et pasteur néerlandais? Il dit, il n'y a pas un centimètre carré dans le domaine entier de notre existence humaine sur lequel le Christ, qui est souverain sur tout, ne crie à moi. Cette phrase avait été prononcée lors d'un discours en 1880 pour l'inauguration de l'Université libre d'Amsterdam, affirmant l'autorité de Christ sur toutes les sphères de la vie. Toute la vie doit être vécue pour la gloire de Dieu. À quoi cela ressemble-t-il de vivre pour la gloire de Dieu à l'université, au campus? À quoi cela ressemble-t-il d'apporter la gloire à Dieu dans toutes les disciplines? Pouvez-vous imaginer un Canada où les hommes et les femmes portent la gloire de Dieu, son caractère, ses valeurs, sa vision, dans toutes les sphères de la société? Dans la famille, l'éducation, les finances, les affaires, les arts et divertissements, des médias, des services communautaires et du gouvernement, dans les sciences, dans les domaines académiques, que Dieu suscite son peuple, qui sont remplis par l'Esprit, qui vont vouloir vivre pour sa gloire dans toutes les sphères de la société. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la crainte, dans la suspicion ou dans l'anxiété. Si c'est cela qui nous domine, alors il y a un esprit autre que celui de Dieu qui nous guide. Nous sommes appelés à vivre dans la gratitude, avec amour pour nos voisins, de vivre en faisant foi en Christ dans tous les domaines de notre vie. Toute gloire appartient à Dieu et à lui seul. Et cette vie pour la gloire de Dieu est concentrée comme un laser sur un objectif spécifique. Regardez le verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, ne cherchant pas mon propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ne causez du tort ou à préjudice à personne. C'est à propos d'apporter de partager la parole de Dieu. Il y a rien de plus noble que glorifier le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon que les gens vont expérimenter l'amour que Dieu a pour eux. C'est la seule façon qu'ils vont venir à la compréhension de quoi est-ce qu'il ressemble de vivre pour un but, d'appartenir à Dieu aujourd'hui et pour toujours. Le lundi dernier, le chef d'un de nos partis fédéraux s'entretenait avec notre petit groupe de pasteurs. Il m'a interrogé sur Willingdon. Ah, il a posé la question, quel était le profil démographique de nouveaux venus à Willingdon? Et je lui ai dit, c'est les gens à travers le monde. J'ai dit, les gens de 20 à 35. Et Pasteur Nicole m'a corrigé. C'est 20 à 40. Et puis, il m'a demandé pourquoi viennent-ils à Willingdon. Moi, j'ai dit, ils viennent pour la nourriture. Que diriez-vous? En fait, j'ai dit, l'appartenance est le but. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens cherchent une communauté où ils peuvent appartenir. Ils cherchent quelque chose qui va remplir leur vie de sens. Pensez-vous que, êtes-vous d'accord? J'aimerais voir votre avis. Envoyez vos réflexions à ask@willingdon.org et nous en discuterons sur un podcast. Les gens aspirent à une histoire qui apporte de la cohérence aux événements et aux saisons de leur vie. Les gens une histoire qui va attribuer de la valeur à leur vie et qui leur offre un profond sentiment de but. Et pour nous, comme disciples de Jésus, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Paul veut que tout le monde l'entende. Il a embrassé son appel à faire des disciples de toutes les nations, afin que des personnes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, afin que tous rendent gloire à Dieu. Paul sait que certains seront rebutés par la vérité de l'Évangile, mais il sait que ça va arriver. Il a déjà expérimenté cela, mais il n'est pas heureux qu'il soit rebuté par son manque de sensibilité. Écoutez ce qu'il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Dans cet appel est pour nous tous, cet appel de Paul. L'une des choses les plus aimantes que nous puissions faire est de prier pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore chrétiens. C'est ce qu'on va faire dans notre rencontre de prière ce mercredi. Nous allons crier vers Dieu pour le salut, pour nos membres de famille, les collègues, nos camarades d'études et nos collègues qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus. J'ai hâte de vous voir au sommet de la prière ce mercredi. Nous prierons pour... Et je prie que vous soyez ici pour intercéder pour ceux qui n'ont pas, connaissent pas encore Jésus. C'est la plus grande chose que nous puissions faire. À cause de cet appel que nous partageons tous, Paul écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai un mime qui va nous faire comprendre. Il y a Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Paul ressemble un tout petit peu à Jésus. Et regardez-moi, je crois que je suis dans la famille de chats. Qui sait? Et pourquoi j'ai cinq pattes? J'essaie, priez pour moi. Venez au sommet de la prière. Je vais être capable de dire comme Paul, suivez mon exemple aussi. Je peux ressembler à ce chat... Mais je suis dans la voie. Nous obtenons le mot anglais ou français mimé à partir du mot grec pour imiter. Mais imiter n'est pas seulement mimer, c'est en fait internaliser et vivre le modèle que nous avons devant nous. Paul savait que les gens suivent pas seulement des conseils, ils suivent des personnes. Il n'a pas seulement proclamé l'évangile à Corinthe avec des paroles, mais il a aussi exemplifié pour les Corinthiens par son mode de vie. Il était leur manuel, pour ainsi dire, la manière de vivre de Jésus. Leur but ultime n'est pas d'être comme Paul, mais d'être comme Jésus. Quel est l'exemple du Christ? Philippiens 2, 4, 8, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et à être... Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est descendu de la gloire pour être l'un de nous. Il s'est anéanti pour nous. Il s'est fait bébé il n'est pas seulement devenu humain, il est venu comme un serviteur pour nous. Et pas seulement un serviteur, il a donné sa vie pour nous. Et il n'est pas mort n'importe quelle mort. Il est allé à la forme de mort la plus basse, la plus honteuse, la mort sur la croix. Il est venu et il a accepté de mourir avec d'une façon la plus pénible. Suivre l'exemple de Jésus, est-ce que signifie être chrétien? Comment est-il possible d'imiter Et vous allez peut-être poser la question à qui je me pose. Comment puis-je être proche de suivre l'exemple de Jésus, sachant comment je suis centré sur moi-même? Et c'est dans le verset 5, la réponse. « Ayant en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes, toi et moi, si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes un avec lui. Nous nous asseyons à sa table. Il demeure en nous par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de nous nous rend capables, nous inspire, permet et nous habilite. Si nous sommes en Christ, nous pouvons alors vivre avec un cœur rempli de gratitude en toutes choses. On peut être guidé par l'amour de Dieu en toutes choses et de tous ceux qui sont autour de nous. On peut vivre pour la gloire de Dieu et pour toutes choses et voir maximum de personnes venir à Jésus pour la gloire de Dieu. La gratitude en toutes choses, guidée par l'amour de toutes choses pour la gloire de Dieu, afin que tout soit sauvé. C'est notre posture de vie, c'est ça. C'est notre but dans la vie. Puissions-nous vivre pour la gloire de Dieu selon cet appel que Dieu nous veut que tous nous puissions vivre comme cela. Prions. Alors Père, nous te remercions encore une fois d'avoir envoyé ton Fils Jésus à cause de ton amour pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est seulement par ta grâce. Ô Père, que nous soyons attirés vers toi, réveillés, régénérés par ton esprit. C'est seulement par ta grâce que nous plaçons notre foi en toi, Jésus. Reconnaissant cette grâce, nous t'invitons de venir avec puissance dans nos cœurs, que nous ne puissions pas vivre pour nos propres intérêts, mais pour ta gloire et pour l'intérêt des autres. Ô Père, nous prions pour un travail profond en nous. Nous confessons que souvent, nous sommes consumés par nos propres intérêts, notre propre identité qu'on veut construire, l'appartenance, le sens de l'appartenance que nous voulons mettre ensemble pour nous seuls. Que Dieu, que nous puissions demeurer en toi, avoir notre sécurité en toi et que nous puissions regarder avec amour autour de nous, avec ton cœur, avec ta vision, que par nos paroles et nos actions, que nos paroles et nos actions t'apportent gloire aujourd'hui et dans les jours à venir à travers notre vie, Jésus. Nous prions Jésus en ton nom. Amen. Je vais mettre quelques questions sur l'écran pour votre réflexion et nous allons continuer en adoration.